Enfin, le podcast qui donne la voix à la nouvelle génération engagée pour la transition écologique.
Le climat, les enjeux climatiques après un été rythmé par des catastrophes naturelles en série et un nouveau rapport du GIEC plus alarmiste que jamais.
Le climat en 2049, si on continue sur la trajectoire actuelle, c'est carrément le film d'horreur.
Il faut qu'on agisse, on est dans la décennie qui peut faire changer les choses. Et si on se trompe, on s'en voudra. Je pense que toute notre vie, on sera incapable de se regarder dans un miroir et de regarder nos enfants dans les yeux.
Hello, c'est Clémence au micro. La rentrée vient de commencer et vous devez sans doute, toutes et toutes, avoir repris votre routine quotidienne. Cet été a été marqué par des sécheresses historiques en France, des incendies qui ont brûlé des forêts entières et une situation hydrique alarmante. Il y a 100 communes en France qui n'ont plus l'eau potable. On s'est tous émus devant ces nouvelles alarmistes et catastrophiques. Pour une fois, arrêtons de déplorer les effets dont on chérit les causes. Mon invité du jour a un job qui va en faire rêver plus d'un. C'est un youtubeur de voyage. Après des études de commerce, Benjamin Martini lance sa chaîne YouTube sous le nom Tolt. Il se fait notamment connaître par un voyage réalisé en Iran. Suite à une prise de conscience écologique grandissante, il décide d'arrêter définitivement de prendre l'avion. Courageux pour certains, impossible pour d'autres, il propose plein d'alternatives au voyage et revient en micro d'enfant sur sa conception du voyage. Bonne écoute.
Salut, moi c'est Tolt, je suis youtubeur voyage bas carbone, puis maintenant... plus de 6 ans, enfin, youtubeur voyage depuis plus de 6 ans, et ça fait maintenant, on va dire, 2 ans que j'ai pris ce virage voyage bas carbone, et je me spécialise sur les modes de transport, on va dire, bas carbone, donc le train, la voile, le vélo, tout ça, et du coup, je ne prends plus l'avion depuis... la dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était en mars 2020.
Et avant ça, t'as pas forcément un parcours qui te prédestinait à devenir youtubeur de voyage, t'as fait une école de commerce, notamment avec une spécialisation en marketing, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ?
Effectivement, j'ai un parcours qui n'a pas forcément de lien avec ce que je fais aujourd'hui, même si quand même j'ai fait un master en marketing digital, donc il y a quand même cette notion numérique. Mais ouais, j'ai appris quand même à l'école, j'ai commencé à toucher un peu à l'audiovisuel dans des projets associatifs. Et après, je suis parti en échange au Mexique, et c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos de voyage, mais vraiment pour le plaisir, et j'ai vu que j'aimais ça, et donc ça a planté une petite... on va dire une petite graine dans ma tête, et finalement petit à petit cette idée a grandi, et en fait ce qui m'a achevé de me convaincre, c'est mon stage de fin d'études que j'ai fait chez Canal+, en marketing digital, rien à voir avec l'audiovisuel, et ça m'a permis de me rendre compte que le marketing me plaisait pas, qu'il manquait une dimension un peu créative pour que je m'épanouisse, et donc je me suis dit on va tenter la vidéo, écoute... de toute façon c'est maintenant ou jamais, et je suis parti en Iran quelques mois après avoir pris cette décision. Donc je suis parti en Iran avec un pote, et évidemment j'en ai fait une vidéo, parce que c'était un moment où en fait je développais mon portfolio, donc j'essayais de voyager et de faire des vidéos, et cette vidéo justement a cartonné. C'est une vidéo qui s'appelle Don't Go to Iran, qui était le premier épisode de ma série Don't Go To, dans laquelle je m'évertuais à casser les idées reçues sur la destination. Et voilà, ça a cartonné, j'ai fait assez rapidement plusieurs centaines de milliers de vues, et donc là je me suis dit c'est ta chance, faut la saisir. Et donc là je me suis vraiment dédié uniquement aux vidéos de voyage, sachant que avant ça je faisais quand même des projets un peu plus alimentaires et passionnants, comme des vidéos pour l'IFACI, qui est l'Institut français de l'audit et du contrôle interne. Donc voilà, ça c'était purement alimentaire, c'était pas du tout... des projets qui m'intéressaient, on va dire, mais au moins ça m'a permis de financer une petite formation en école de cinéma et mes voyages, etc., et donc développer mon portfolio.
Et aujourd'hui, comment tu te finances ? Tu te finances grâce aux agences de tourisme, j'imagine, en partie ?
Alors aujourd'hui, moi je suis payé donc principalement effectivement par des comités régionaux ou départementaux de tourisme. Ça c'est le gros de mes clients. Après aussi parfois pour des marques, là par exemple j'ai publié récemment une vidéo tournée en Corse, et ça c'était en partie financé par Babel, qui est une application qui permet d'apprendre des langues. Je suis payé par des marques ou parfois des organisations publiques qui font de la promotion touristique.
Et parfois t'as pas eu un peu peur de dire le freelance ça peut faire peur, c'est moins sécurisant, c'est moins confortable?
Là où évidemment moi j'ai beaucoup de chance, j'ai des parents qui ont été super sympas avec moi et qui ont soutenu le projet, notamment en me laissant rester chez eux gratuitement, etc. Donc en fait la prise de risque était quand même assez limitée. Tout ce que je risquais c'était de tenter un projet et que ça marche pas et du coup de repartir sur un métier un peu plus traditionnel. J'ai eu des doutes comme tout le monde, de toute façon c'est important de se remettre en question, mais j'ai pas vraiment eu peur, puis surtout que ça a quand même assez vite fonctionné, enfin j'ai assez vite vu les fruits de mon travail avec des vidéos qui performaient bien, etc. Et donc j'ai pas vraiment eu peur, même si effectivement c'est sûr qu'au début quand je me suis lancé et que je racontais que je parlais de mon projet à mes potes, je sentais dans leur regard que c'était un peu qu'est-ce qu'il est en train de foutre, quoi.
Et de tous les voyages que t'as fait, notamment maintenant en France et à l'étranger, l'Iran, j'imagine que t'y allais en avion, non? Ouais. Quel a été l'élément déclencheur pour te dire ok c'est bon j'arrête l'avion?
Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que moi c'est un cheminement qui s'est fait progressivement depuis que je suis tout petit. Je me revois quand j'étais tout petit lire des fascicules de la fondation Nicolas Hulot ou alors être pas mal interloqué par le film d'Al Gore, An Inconvenient Truth. Depuis que je suis jeune, c'est une question qui me préoccupe, sachant que il y a 20 ans on pensait qu'il suffisait de trier ses déchets et se balader un peu à vélo pour régler le problème. Aujourd'hui on voit que c'est pas le cas. Je pense que comme beaucoup de gens, plus on avance dans le temps, plus on voit que c'est catastrophique, plus on voit que c'est urgent et plus on voit qu'on n'arrive pas à changer les choses. Donc je vais vers une forme d'engagement plus radical. Après, qu'est-ce qui a... Moi, en fait, ce qui m'a vraiment poussé à arrêter l'avion, c'est là où je remercie un peu mon entourage et je sais que c'est pas toujours facile. Comme je commençais à m'exprimer un peu sur les sujets environnementaux, que ce soit en privé ou en public, et que je prenais énormément l'avion, les gens me renvoyaient à cette contradiction. Et bon, ça fait jamais plaisir à entendre parce que t'as l'impression, toi, de changer beaucoup de choses, de faire des efforts, etc. Mais même si ça fait pas plaisir, je pense que c'est super utile et on doit être capable de le prendre, pas forcément personnellement, et de pas se vexer. On doit être capable de se remettre en question. Et donc, c'est suite à ces remises en question, à ces remarques que j'ai pu avoir de mon entourage proche, etc., que je me suis dit, tu sais quoi, on va peut-être commencer par être cohérent soi-même. Et donc, je me suis dit, allez, tu sais quoi, on va arrêter l'avion. De toute façon, moi, les défis comme ça, c'était un peu comme le fait de me lancer en tant qu'indépendant comme ça, c'était aussi un défi. Et en fait, c'est ça qui m'excite, c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est ne pas faire comme tout le monde et arriver à justement un peu faire bouger les lignes, quoi. Je dirais que ça vient quand même pas mal de mon entourage qui m'a un peu mis sous le nez mes contradictions.
Et au quotidien, au-delà de ton rôle de youtubeur et d'influenceur, est-ce qu'au quotidien, tu as l'impression que c'est une contrainte qui est très forte, j'imagine même pour ton entourage, ou pas spécialement? Tu arrives à t'en sortir sans prendre l'avion?
Non, franchement, c'est pas une contrainte forte. Évidemment qu'il y a des fois où, quand j'ai des potes qui me parlent de leur voyage à l'autre bout du monde et je me dis j'aurais bien aimé quand même en faire partie. Mais aujourd'hui, ça me manque même pas. Je vis tellement de choses extraordinaires sans prendre l'avion que je me rends compte que j'en ai pas besoin. Et puis en fait, à chaque fois, je le vois un peu comme un défi de trouver des solutions pour continuer à vivre des choses avec mes amis qui prennent encore l'avion. Je peux prendre l'exemple de la Sicile là cet été. Un peu comme pour les vacances entre potes, tu peux pas imposer tes contraintes et ta décision. Donc finalement, il y a une location de maison qui s'est faite en Sicile. Et ce qui est cool, c'est que j'avais un autre pote qui prend plus l'avion et donc on s'est dit on va trouver une solution pour y aller sans avion. Et donc en fait, on s'est dit qu'on allait traverser un peu l'Italie pendant une semaine et ensuite prendre un ferry pour aller en Sicile. Donc finalement, on a trouvé une solution pour aller passer une semaine en Sicile avec nos potes sans prendre l'avion.
Et de tous les voyages que tu as fait pour l'instant, notamment en France, quel est celui qui t'a le plus marqué et pourquoi?
En France, là, c'est un voyage qui est assez récent que j'ai fait en février en Corse. Ça m'a marqué parce que c'est un projet qui est plus original que les autres puisque j'y suis allé à la voile. Et puis la Corse, je pense que c'est plus trop à présenter, c'est une destination qui est exceptionnelle avec des paysages à couper le souffle et une variété justement entre mer et montagne, c'est, C'est assez fou. Et du coup, j'ai fait une traversée à la voile aller-retour dans le cadre de ce projet. Et
juste, ça prend combien de temps de faire Marseille ? T'es parti de Marseille, du coup, j'imagine ?
Je suis parti de Bandol.
Ça prend combien de temps de faire Bandol Corse à la voile ?
Bandol, alors en général, ça, une traversée continent Corse, ça prend entre 18 et 30 heures. Après, ça dépend évidemment des conditions météorologiques, du skipper, enfin de pas mal de facteurs. Mais en gros, ouais, faut compter entre 18 et 30 heures. Nous, on a mis à peu près 23-24 heures à l'aller et au retour à peu près pareil. Et ouais, non, c'était exceptionnel. Je l'avais déjà fait en fait une fois avec mes parents. J'avais déjà adoré ça parce que tu te retrouves un peu dans la nuit complètement noire. T'as le ciel étoilé au-dessus de toi. Et en journée, tu peux voir des dauphins, des choses comme ça. Nous, on a eu la chance d'avoir des dauphins qu'on nageait à l'étrave du bateau pendant 5 minutes au retour. On a aperçu des baleines aussi au loin, et puis le lever de soleil perdu dans la Méditerranée, c'est un truc à vivre au moins une fois dans sa vie.
Oui, et par rapport à ce que tu dis, c'est que là on se rend compte que le trajet, ça faisait également partie du voyage. C'était un voyage.
Exactement.
Dans le voyage.
C'est pas du temps perdu, c'est du temps où tu vis des choses et où t'as beaucoup plus de choses à raconter que si t'avais pris un avion à Beauvais tu passes... ton heure et demie d'avion, à lire un livre ou un truc comme ça. Quoi.
Et selon toi, qu'est-ce qui manque pour que les gens arrêtent de prendre l'avion ? Ou du moins réduisent de manière drastique ?
Je pense que la première chose, c'est qu'il faut absolument qu'on informe les gens sur l'impact de l'avion, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte. Donc c'est là aussi, moi j'essaye, en fait, aujourd'hui j'essaye de faire deux choses. Première chose, j'essaye d'informer les gens sur l'impact de l'avion. Donc là par exemple, on le voit dans le documentaire... que j'ai fait sur la Corse, je rappelle un peu les ordres de grandeur et je rappelle que un aller-retour Paris-Ajaccio en avion, c'est une demi-tonne équivalent carbone, sachant que le budget carbone cible qu'on doit atteindre si on veut rester sous les plus de 2 degrés, c'est 2 tonnes. Ça laisse pas de place à l'avion en fait. Donc déjà, rappeler les ordres de grandeur, rappeler que l'avion, à l'échelle individuelle, c'est le truc qui a le plus d'impact. C'est très bien de trier ses déchets, c'est très bien de manger moins de viande, etc. Mais si c'est pour faire un vol à l'autre bout du monde, en fait, ça pèsera pas grand-chose face à ça. Un aller-retour à New York, c'est 2,4 tonnes équivalent carbone. Enfin, voilà. En gros, l'avion, c'est la seule raison pour laquelle l'aérien pèse encore relativement peu dans les émissions, c'est parce que c'est réservé à une élite, c'est réservé à une part infime de la population. J'avais vu une stat comme quoi t'as 10% de la population mondiale qui a déjà pris l'avion, et ça c'est pas forcément des gens qui le prennent régulièrement. Donc ça vous laisse imaginer à quel point c'est un truc réservé à des privilégiés. Et malgré ça, aujourd'hui l'aérien, si tu prends tout en compte, pas juste les émissions carbone, mais si tu prends aussi, on va dire, le pouvoir réchauffant des cirrus et des contrails et tout ça, aujourd'hui, l'aérien, ça représente à peu près 5% du réchauffement climatique. Donc c'est pas du tout négligeable, et si on veut rester sous les plus de degrés, c'est juste, ça pour le coup c'est pas moi qui le dis, c'est des scientifiques, c'est juste inconcevable de continuer l'avion, quoi.
Ouais, je comprends. Et est-ce que t'as aussi eu le fait d'être youtubeur et d'être un peu influenceur, est-ce que tu dis moi j'ai aussi un rôle à jouer, parce que tu dis pour informer les gens et aussi pour montrer différents exemples de voyages, j'imagine.
Ouais. Effectivement, j'ai oublié du coup de parler de la deuxième partie. Donc effectivement, première partie, j'essaye d'informer les gens, de rappeler les ordres de grandeur. Et deuxième partie, j'essaye aussi d'inspirer, de montrer que c'est carrément possible de vivre des expériences extraordinaires sans prendre l'avion. Et voilà, l'exemple de la Corse, c'est parfait exemple. J'ai fait une semaine en Corse. En tout, le voyage nous a pris un petit peu plus d'une semaine, une dizaine de jours. Donc ça veut dire que c'est à la portée de n'importe qui, même un salarié ou qui que ce soit. Et c'était extraordinaire. Et on l'a fait en plein milieu de l'hiver. Et justement, dans le documentaire, j'offre des solutions. Parce que, évidemment, moi, ma position de youtubeur me permet d'être plus flexible, de trouver des sponsors, de trouver des partenaires, etc. Mais j'offre des solutions aussi concrètes. Je partage des solutions concrètes dans le documentaire. Là, tu as notamment une initiative qui s'appelle Sail Co-op, qui est en train de se monter, qui va proposer des traversées à la voile pour la Corse dès cet été. Donc aujourd'hui, il y a des solutions qui commencent à se monter. Il y a déjà des solutions existantes avec des sites de co-navigation ou de bourses aux équipiers qui te permettent de trouver des bateaux pour embarquer. En fait, c'est juste qu'il faut sortir de nos habitudes et ouvrir un peu notre esprit pour trouver d'autres solutions. Et du coup, c'est ce que j'essaye aussi de montrer dans le contenu que je partage.
Est-ce que tu arrives à savoir si ton audience, les gens qui te suivent et qui suivent tes vidéos, est-ce que tu as déjà eu des retours? Tu as réussi à les influencer pour choisir une destination sans avion versus une destination à l'autre bout du monde?
Ouais, carrément. J'ai eu des gens qui m'ont dit « Ah, grâce à telle vidéo, je suis allé à tel endroit, en Lozère, en France, etc. » Donc ça, pour le coup, je sais que mes vidéos ont un pouvoir de, on va dire, de persuasion ou d'influence, même si j'aime pas trop ce terme-là.
Ou de montrer des nouvelles manières de voyager.
Donc c'est sûr que c'est quelque chose d'efficace, ça c'est sûr. Après, évidemment, dans mon audience, j'arrive pas à convaincre tout le monde. Il y a encore plein de gens. Ça m'arrive parfois de faire des sondages. Et parmi les gens qui me suivent, il y en a qui me suivaient avant que je prenne ce tournant, on va dire, sans avion. Donc il y a encore plein de gens qui me suivent, qui continuent à prendre l'avion. Et pour le coup, j'ai complètement conscience que c'est super compliqué de renoncer à des habitudes avec lesquelles t'as grandi. Donc tout l'enjeu, bah, pour moi, c'est d'arriver voilà, à les convaincre sans avoir l'air de trop les juger. Mais sans non plus tomber dans le... Enfin, voilà, moi, je suis pas là pour essayer de leur faire croire que c'est possible de continuer à prendre l'avion et de rester sous les plus de degrés. Donc, l'idée, c'est de leur partager des faits scientifiques avérés pour qu'ils aient ces réalités-là en tête et après, essayer de leur proposer des solutions concrètes.
Et parmi tous les voyages que tu as fait, c'est quoi ta plus grande surprise?
Ma plus grande surprise... Bah en fait, là, c'est un peu biaisé parce qu'évidemment, l'Iran, c'était l'une de mes plus grandes surprises parce que c'était le premier voyage un peu insolite, un peu atypique, c'est-à-dire pas l'Espagne ou j'en sais rien.
Et pourquoi vous avez choisi l'Iran à l'origine comme destination?
Bon, en fait, ça s'est fait un peu sur un coup de tête. On savait qu'on voulait partir quelque part et on est allé sur un site qui s'appelait, je sais pas si ça existe toujours, mais qui s'appelle Secret Flying, où t'as tu trouves des vols à bas prix et justement il y avait des vols pour l'Iran genre à 200 €. Donc on s'est dit ah pourquoi pas l'Iran tiens. Et moi j'avais déjà entendu des gens me dire que l'Iran les gens étaient super super accueillants etc. Et donc on s'est dit bah vas-y pourquoi pas et au bout de quelques jours on s'est dit allez go on va en Iran quoi. Donc ça s'est fait un peu sur un ouais par hasard. C'était pas forcément une destination où on était sûr d'avoir envie d'aller avant de voir le prix de ses billets quoi.
Et du coup, c'était une des plus grandes surprises parce que le début, la découverte de nouvelles cultures, et tu t'y attendais pas forcément.
Bah, c'est surtout qu'en fait, on connaît pas grand-chose de l'Iran. C'est pas un pays qu'on étudie à l'école. Nous, enfin, avant ce voyage, les seules fois où j'avais entendu parler de l'Iran, c'était, enfin, pas les seules fois, mais dans la majorité des cas, quand j'entendais parler de l'Iran, c'était dans les médias qui parlait de l'Iran qui voulait faire brûler les États-Unis, enfin Ahmadinejad, tout ça. Donc c'était à travers un prisme super négatif. Et forcément, même quand t'essayes de prendre du recul par rapport aux informations que tu vois dans les médias, ça a forcément un impact sur la perception que t'as d'un pays. Donc évidemment, j'avais déjà fait tomber pas mal d'idées reçues en me renseignant avant de partir, en lisant sur l'Iran, etc. Mais malgré tout, c'était une surprise incroyable parce que c'est un pays avec une richesse culturelle extraordinaire, des paysages à couper le souffle et une variété extraordinaire. Et puis des gens d'une gentillesse et d'un... Enfin, comment dire, un sens de l'accueil extraordinaire.
Moi, j'avoue que c'est un des pays qui me fascine le plus, que j'aimerais le plus visiter. Pour toute la culture perse et tout, je trouve ça assez fascinant.
Ah bah ouais, ouais. Je ne peux que recommander d'y aller. Et ouais, après... voilà, faut y aller. Il y a des solutions pour y aller sans avion. Ça faisait partie de mes projets, là, justement, quand j'ai pris la décision d'arrêter l'avion. J'avais commencé à travailler sur un projet de voyage en Iran en train. Donc l'idée, c'était de traverser l'Europe et de passer par la Turquie, etc. Et en fait, il y a eu le Covid, donc finalement, ça a été un peu avorté. Enfin, en gros, on devait partir début mars, et là, c'était pile le moment où le Covid, c'était n'importe quoi. Et notamment en Iran, où c'était un peu un des foyers. Et donc, finalement, on est parti en Ukraine. Mais je ne désespère pas, je pense que je finirai par le faire un jour.
Et là, il y a deux questions qui me viennent. Déjà, la première, comment tu as fait pour aller en Ukraine? Et la deuxième, c'est comment le Covid a impacté son activité? Parce qu'en tant que YouTuber... et influenceur dans le voyage, j'imagine que ça a eu un impact très fort.
Ouais, carrément. Alors l'Ukraine, j'y suis allé en train. En fait, tout simplement, le voyage qui était prévu initialement pour aller en Iran, bah, on a fait quasiment le même, sauf qu'après, on a fini en Ukraine.
Et du coup, tu fais quoi? Tu fais Paris,
On a fait Paris, Munich, Munich, République tchèque, parce qu'en fait, à chaque fois, sur le chemin, j'avais trouvé des partenaires, donc par exemple à Munich, en République tchèque, en Pologne, etc. Donc l'idée, c'était qu'on faisait un arrêt à chaque fois, donc on prenait le temps un peu de faire 24 heures sur place. Je sortais une vidéo quotidienne. Et donc, on a fait ça, on est allé jusqu'en Ukraine. Et au fur et à mesure qu'on avançait, il y avait le Covid vraiment qui nous encerclait un peu. C'était là, on vient de quitter la France, ça commence à être la merde en France. Ah, là, on vient de quitter l'Allemagne, ça commence à être vraiment la merde en Allemagne. Et on savait même pas si on pourrait passer en Ukraine, parce qu'on voyait des tweets passer par rapport à la fermeture des frontières, etc. Et finalement, on a réussi à passer un peu in extremis en Ukraine. Et donc moi j'étais ravi, je me disais bon bah yes, au pire je me confine en Ukraine, c'est pas très grave. Sauf que la personne qui était avec moi en Ukraine, lui pour le coup il était un peu plus... il a un peu flippé on va dire. Et donc lui il a pris la décision de rentrer. Et bon j'avoue que autant rester à deux confiné, bon ça me faisait marrer, autant rester tout seul, je me suis dit c'est peut-être pas une si bonne idée. Donc finalement je suis rentré et du coup c'est là que j'ai pris... mon dernier avion, parce que c'était pas du tout prévu, mais en fait vu que les frontières fermaient, c'était quasiment un job de rentrer en train, quoi.
Et du coup, comment le Covid a impacté ton activité?
Et alors, comment le Covid a impacté mon activité? Évidemment, pendant 2 mois, comme tout le monde, j'ai rien fait. Enfin, j'ai fait un peu de montage. Et après, du coup, je me suis dit, ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête de me recentrer sur la France et l'Europe. Donc, j'ai commencé à réfléchir à ça. Confinement, on est allé tourner le premier épisode de ma série N'allez pas. Donc, à différencier avec la série Don't Go To, où là c'est vraiment. Don't Go To, c'est des clips de 3-4 minutes sur des destinations étrangères, un peu avec une dimension internationale. Et ma série N'allez pas en, c'est purement francophone. Donc, c'est des documentaires de 15-20 minutes sur des départements ou des destinations en France, principalement. Et donc, on est allé tourner le premier épisode en Creuse. Pour faire le pilote et avoir ce pilote à montrer à des partenaires et ensuite vendre d'autres épisodes.
Et c'est toi qui avais choisi la Creuse en particulier ou c'est le hasard qui a fait que...
C'est moi, ouais. Parce que je me suis dit la Creuse c'est parfait pour c'est un peu le département qui te vient à l'esprit quand t'as besoin de parler d'un trou paumé en France. Et je me suis dit je vais les contacter, ils étaient intéressés par le projet, ils nous ont soutenus un peu. Alors ça nous a pas permis de tout financer, mais on a dû quand même pas mal autofinancer. Mais on a eu ce soutien qui était quand même super utile. Et du coup, le premier épisode N'allait pas en Creuse a très bien fonctionné. Là, aujourd'hui, on doit être à 60-70 000 vues. Ça pèse pas grand-chose par rapport aux 3 millions de vues que j'avais faites sur Taïwan ou 2 millions sur le Brésil. Mais c'était quand même, ça a bien marché. Et donc après ça, ça m'a permis en fait de vendre d'autres épisodes en France. Il y a eu l'Aveyron, la Lozère, le Lot... Il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y a eu le Pays de Beach. On a fait tout un tas de destinations en France. Et donc là, aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus que je passe le plus de temps sur cette série en France, le dernier épisode qu'on a fait en Corse.
Et c'est quoi les prochains épisodes qui sont prévus ?
Alors, le prochain épisode, je ne sais pas dans quel ordre ça va sortir, mais en gros, on va tourner la semaine prochaine, on part en Loire-Atlantique. Donc il va y avoir un épisode sur la Loire-Atlantique. Après ça, je retourne en Ariège, parce qu'on avait déjà tourné un peu en hiver, et là, il fallait qu'on tourne dans une autre saison pour montrer un peu la dualité qu'il y a dans la région. Donc il va y avoir la Loire-Atlantique, Ariège, et après les autres projets, c'est pas encore sûr, donc je préfère pas en parler, mais en gros, de sûr, il y a ces deux projets-là.
Et quand tu dis le « on », c'est vous êtes une équipe de combien de personnes ?
Alors, aujourd'hui, j'ai un alternant qui est avec moi depuis maintenant un an et demi. Et sinon, je bosse très régulièrement avec un autre YouTuber qui était mon tout premier stagiaire, qui s'appelle Sile Artichaut. Et lui, en fait, il est YouTuber, mais plus sur le, on va dire, le folklore, etc., l'occulte, etc. Donc, c'est un univers qui est complètement différent. Mais j'essaye, quand je vends un projet, j'essaye aussi de le mettre dans la boucle pour que lui vienne m'aider sur le tournage, parce que de toute façon, je pars avec quelqu'un qui vient m'aider pour faire des images. Et en gros, ce que je dis aux offices de tourisme, c'est que de toute façon, autant faire d'une pierre deux coups et avoir quelqu'un qui a de l'audience pour utiliser aussi les images et faire du contenu différent. Donc sur les derniers projets, on a eu beaucoup de projets en commun où justement, moi, je faisais une vidéo, n'allait pas dans la Creuse, par exemple, et lui faisait... une vidéo sur les curiosités de la Creuse.
Et c'est quoi ton plus grand défi sans avion ? Est-ce que là, tu te fixes un objectif de tournage et tu te dis, en le faisant sans avion, c'est un gros défi ? J'imagine que la Corse, c'était un défi quand même.
La Corse, ouais, c'était déjà un premier défi et finalement, ce qui a été relevé assez facilement. Donc ça, c'est cool et ça me donne encore plus confiance pour aller vers d'autres projets à la voile. D'autant plus que là, je suis revenu hier soir d'un stage au Glénan, qui est une association... qui fait des stages de voile. Donc la voile va prendre une part importante dans le contenu que je vais partager à l'avenir. Mais évidemment, ouais, le projet aujourd'hui auquel je pense de plus en plus, mais qui va peut-être pas se faire immédiatement, ça va être une transatlantique. Et l'idée, ouais, ce serait de peut-être carrément de créer une sorte de studio itinérant sur un bateau et de partir pendant 6 mois, 1 an à bord d'un bateau et continuer à faire des vidéos dans ce cadre-là.
Ok. Un beau projet, c'est un beau projet quand même.
Ouais, carrément. Après, c'est très embryonnaire encore. Je pense qu'il faut déjà que je gagne en expérience au niveau de la voile. Puis en fait, j'ai pas envie non plus d'abandonner ma série sur la France, donc j'aimerais bien la pousser à fond et je sais pas, arriver au moins à 20-30 épisodes. Donc voilà, pour l'instant ma priorité sur on va dire les peut-être 2-3 ans à venir, ça va être ça, et une fois que je serai arrivé au bout de ça, ce sera l'occasion de partir un peu plus loin.
Et tu m'as dit l'épisode qui t'a le plus surpris, et à l'inverse celui où t'étais le plus déçu. Est-ce qu'il y a un épisode où tu t'es dit franchement c'est trop dommage, je m'attendais à mieux, je m'attendais à pouvoir véhiculer plus d'informations positives?
Honnêtement, j'ai jamais vraiment été déçu, parce que quelles que soient les destinations, y a toujours des trucs à découvrir, toujours des gens intéressants à rencontrer, des expériences à vivre. Après, évidemment, tous les départements ne se valent pas, toutes les destinations ne se valent pas. J'irai jamais dire à quelqu'un, il vaut mieux aller au Bahreïn qu'au Brésil ou en Iran. Mais même au Bahreïn, voilà, j'ai découvert des trucs intéressants. Pareil, au niveau des départements français, c'est sûr que... en Meuse, tu vas pas avoir des paysages aussi beaux qu'en Corse ou qu'en Lozère. Mais malgré tout, il y a toujours des choses à découvrir. Un patrimoine, de la gastronomie, des gens à rencontrer. Et ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois, on est super bien accueillis. Et donc, nous, on prend beaucoup de plaisir. Et là-dessus, j'ai conscience que j'ai beaucoup de chance et que c'est pas donné à tout le monde.
Et tu te vois où dans 5 ans ? Tu penses que tu vas continuer à développer ta production ?
Ouais, carrément. On ne sait jamais après, on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Et je vois, mon projet a déjà pas mal évolué là en 6-7 ans. Ce que je fais aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec ce que je faisais au tout début. Ça reste de la vidéo de voyage. Donc c'est difficile de savoir, mais je pense que je continuerai à faire ce métier parce que, comme n'importe qui, quand je suis en tournage par exemple, je suis un peu dans ce stress de faire des résultats. Enfin, j'ai la pression du résultat, il faut que je fasse des belles images. Donc c'est pas du tout des vacances. On se lève à 6-7 heures et on n'est jamais couché avant minuit, 1 heure. Donc c'est souvent des périodes assez intenses.
Mais c'est bien de le préciser, je pense. Il y a sûrement beaucoup de gens qui se voient, qui se disent c'est cool, il est en vacances tout le temps.
C'est sûr que nous, on partage en plus principalement le positif et on partage pas aussi, on partage moins les galères, même si j'aime pas trop partager une vision édulcorée, j'essaie de rester le plus fidèle possible à ce qu'on vit. Mais oui, c'est clair que c'est pas du tout des vacances. C'est des journées qui sont super intenses. On a des programmes super chargés. Il y a cette pression des résultats. Voilà. Moi, en gros, quand je suis en tournage, j'ai toujours, je garde à l'esprit, bah voilà, il faut que je fasse des belles images. Il faut que j'ai ce sonore-là sur cette interview pour pouvoir faire un documentaire de qualité. Il y a une forme de pression, comme dans n'importe quel métier. Mais ce que je me dis, c'est que je préfère avoir cette pression en étant dehors, en faisant de l'escalade ou en faisant du canoë. Ou je sais pas, en dégustant de la gastronomie délicieuse dans un restaurant ou des choses comme ça, plutôt qu'être dans un bureau à la Défense ou j'en sais rien. Donc voilà, là-dessus, c'est clair que j'ai beaucoup de chance et en plus de ça, ça me permet de découvrir énormément de choses. Et comme je suis quelqu'un de très curieux, c'est exactement le genre de métier qu'il me faut.
Et qu'est-ce qui t'a inspiré au début pour te lancer ? Et qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui pour continuer ? Des personnalités ou je sais pas des...
Il y a un film en particulier, un réalisateur qui m'a donné vraiment envie de faire ce métier. C'est un mec qui s'appelle Vincent Urban, un Allemand. J'étais tombé sur une vidéo qu'il avait faite qui s'appelle In South America en quatrième année d'école. C'était juste avant mon départ au Mexique. Et c'est clairement ça qui m'a donné envie de faire des vidéos de voyage quand j'étais au Mexique. Parce que, ouais, c'est un génie. C'est un mec qui... Il fait toujours les bons choix musicaux. Ses montages sont super bien faits. Ça transmet énormément d'émotions. Et donc, je suis tombé sur cette vidéo In South America. Et ça a eu beaucoup d'importance dans le choix de carrière que j'ai fait par la suite.
Ok, c'est marrant. Du coup, c'était en plus par hasard.
Ouais, non, par hasard, c'est tombé dans mon fil Facebook, je sais plus comment.
Ouais, c'est parfait, bien fait. Et pour finir, si tu avais un conseil à donner à un jeune étudiant qui sort de ses études, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ?
D'un point de vue environnemental, je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument se renseigner. C'est plus acceptable d'ignorer, de mettre des œillères, parce que de toute façon, ça va nous retomber sur la gueule. De façon très violente, donc je pense que c'est super important d'être informé sur ces sujets, d'avoir les ordres de grandeur en tête, et après ça permet du coup de faire ses choix en connaissance de cause, et donc ça c'est le premier point. Et après aussi, ouais, bon, ça fait un peu mauvaise phrase inspirante d'entrepreneur, mais voilà, ne pas avoir peur de se lancer, même si on a l'impression que c'est pas ce qu'il faut faire, que personne ne fait comme soi. Parce qu'en fait, avec de la volonté et de l'audace, j'ai pu me rendre compte dans les 6-7 dernières années qu'on y arrive, quoi.
Est-ce que parfois t'as douté et tu t'es dit « Franchement, c'est vraiment une énorme connerie, il vaut mieux que j'arrête tout de suite et que je reprenne un CDI chez Canal+. »
J'ai eu des périodes de doute, notamment dernièrement, là, au moment du Covid. En fait, je pense que le Covid m'a un peu matrixé, si j'ose dire. Mais c'était plus, je pense que c'était plus par rapport à mes relations personnelles, que ce soit amicales ou on va dire intimes, parce que c'est sûr que c'est un mode de vie mes potes ont pris des chemins de vie assez différents, et du coup les filles que je rencontre aussi par mes potes, etc., ont des visions de la vie assez différentes. Et donc, me demander si ça pouvait pas être gênant et s'il fallait pas peut-être que je rentre dans cette case qui convient mieux, on va dire, aux gens que je côtoie. Mais ouais, c'est resté au stade embryonnaire où je me suis dit, ouais, pourquoi pas, et j'ai même pas passé le moindre entretien ou quoi que ce soit. Mais ouais, j'y ai réfléchi un peu, mais après en fait les tournages ont repris et ça m'a très vite remis les idées en place.
Vous venez d'écouter Enfin. J'espère que cet épisode vous a plu, inspiré et surtout donné enfin envie de vous engager. Si c'est le cas, je compte sur vous pour en parler autour de vous, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles. Si vous souhaitez être le prochain invité du podcast ou simplement nous faire part de vos retours, n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre page Instagram Enfin Podcast.